cœur de l'info sur VO.
Le monde au féminin.
Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Gilles Wono, bonjour, merci beaucoup d'accepter cet entretien téléphonique avec Le Monde au Féminin.
Bonjour Nathalie, merci de m'avoir.
Vous êtes directrice de Internet sans frontières. C'est pour parler des questions en fait de haine à l'encontre des femmes sur Internet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de propos misogynes, sexistes à l'encontre des femmes. Et on a même des mouvements d'ailleurs, notamment aux États-Unis, hein, qui s'affichent comme étant contre les femmes. Est-ce que les plateformes numériques sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, etc., Twitter, ont des politiques spéciales pour lutter en particulier contre la haine envers les femmes, les propos sexistes et misogynes, hein?
Alors, quand on parle de sexisme en ligne, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir vraiment l'ampleur du problème. On sait que de nombreuses femmes sont affectées. Des études ont tenté de démontrer qu'il y a certains groupes qui sont plus affectés par le harcèlement en ligne, par des pratiques qu'on appelle comme le doxing, dans lesquelles des personnes vont de manière coordonnée partager des informations privées d'une victime en particulier, et souvent il s'agit d'une femme. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que le sujet du sexisme en ligne est très peu traité, aussi bien par les entreprises, mais aussi par beaucoup de gouvernements dans le monde. Ceci étant dit, il y a quand même quelques études qui existent et qui ont pointé l'existence de problèmes. Internet sans frontières, en 2018 par exemple, avait organisé un sondage qui a révélé que plus de 40% de femmes et de jeunes filles localisées dans des pays d'Afrique occidentale et centrale avaient été victimes, ont subi des formes de violences basées sur le genre, sur Internet. Nous avions conduit cette étude sur deux réseaux sociaux parmi les plus fréquentés, que sont Twitter et Facebook. Une autre étude parue en 2021, cette fois-ci publiée par l'organisation américaine PEN America, a également démontré qu'il y avait de sérieux problèmes de harcèlement des femmes et en particulier des femmes journalistes. Maintenant, sur votre question qui est de savoir est-ce que les plateformes ont des règles, qu'on constate, c'est que oui, il y a des règles qui sont assez générales, qui ne concernent pas spécifiquement le problème des contenus qui visent les femmes. Ce sont des règles générales relatives au harcèlement, mais il n'y a pas de règles, à notre connaissance, pas de règles spécifiques sur la question du genre. C'est des choses que certaines plateformes sont en train de vouloir changer. On a par exemple connaissance d'Internet sans frontières d'un effort en ce sens auprès de l'entreprise Twitter, qui est en train de mener des recherches pour changer le design de sa plateforme, pour changer les fonctionnalités de sa plateforme et permettre à des victimes de harcèlement, et notamment et surtout des femmes, et en particulier des femmes journalistes ou activistes, ou en tout cas des femmes qui sont vocales et visibles dans le public, eh bien leur donner des fonctionnalités qui leur permettent de bloquer le harcèlement, tenir éloignés en fait les harceleurs et surtout les opérations coordonnées de harcèlement. Donc il y a des efforts qui sont faits par les plateformes. Je crois également que l'entreprise Meta, et particulièrement sur son réseau social Facebook, a créé un conseil dont l'objectif est de conseiller l'entreprise pour s'assurer que l'entreprise et la plateforme, les plateformes de l'entreprise restent sécurisées pour les femmes en particulier et pour les publics plus fragiles. Mais de manière globale, il faut avouer que on se prend assez tardivement sur un problème qui existe depuis extrêmement longtemps. Et il faut le rappeler, et ça me donne l'occasion de le faire, qu'en matière de risques sur Internet, en matière de dysfonctionnement sur Internet, les premières victimes, ce sont souvent les mêmes qui sont marginalisées dans l'espace qui n'est pas numérique. Et souvent, ces marginalisées, ce sont évidemment les LGBTQI, les populations minoritaires, mais aussi les femmes qui sont victimes de beaucoup d'injustices et d'inégalités dans le monde réel.
écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique. Julie Owono, on sait que Internet n'a pas de frontières, hein, et le nom même de votre organisation le dit clairement. Au niveau du droit international, en ce qui concerne la haine en ligne, parce que il faut pas oublier que les propos sexistes et misogynes, hein, peuvent conduire à des meurtres de femmes, comme on le sait. Est-ce que il y a des lois particulières qui font que, à un moment donné, on peut sanctionner un réseau social pour ces questions-là, si c'est pas vraiment censuré et que ça doit l'être?
Il y a des pays dans lesquels des règles existent sur le harcèlement et dans lesquels des dispositions pénales punissent déjà toute forme de harcèlement. La seule différence ici, c'est que ça se passe sur Internet. Et Internet est un espace, certes, sans frontières, mais c'est aussi un espace qui est devenu notre espace de vie, surtout dans un monde qui transitionne après la pandémie, dans ce monde dans lequel beaucoup d'interactions, beaucoup de temps de notre vie se passe sur Internet. Les règles qui s'appliquent hors ligne doivent également s'appliquer en ligne. Et c'est d'ailleurs le sens de mon organisation. Bien sûr, Internet est sans frontières, mais aussi les droits dont nous jouissons dans le monde réel doivent aussi être protégés avec la même vigueur dans l'espace virtuel. Donc, ceci étant dit, il y a des règles qui existent dans beaucoup de pays sur le harcèlement, sur les violences basées sur le genre. Je pense notamment à un pays comme la France, qui a déjà des dispositions qui s'appliquaient par ailleurs dans l'espace non virtuel, mais qui a adopté, je crois en 2016, une loi pour la République numérique qui incluait notamment des dispositions spécifiques sur les violences basées sur le genre en ligne. Et je pense notamment à une forme de violence très répandue qui s'appelle le revenge porn, qui consiste à publier de manière non volontaire, donc sans l'accord de la personne, publier des images intimes de cette personne-là qui ont souvent été partagées avec un ex-partenaire et conduit, qui se permet donc de partager ces images-là. Et bien ça, aujourd'hui, c'est condamné en France. Il y a de nombreux pays dans lesquels c'est condamné. Donc oui, il y a des règles qui existent, des dispositions pénales qui existent par ailleurs, mais effectivement, la difficulté, c'est de les faire appliquer. Mais avant même de les faire appliquer, il faut d'abord qu'on admette qu'il y a un problème de violence basée sur le genre sur Internet. Comme je le disais, cette reconnaissance-là n'est pas encore totale dans tous les États du monde entier. Donc c'est un travail qui reste à faire et c'est pour ça que le plus de recherches qui pourront être menées, le plus de données qui pourront être publiées sur l'ampleur du problème pourront aider à une prise de conscience plus globale et aussi au niveau étatique de la gravité du problème.
Vous avez parlé d'un cas particulier, celui de la France, mais par exemple dans certains pays d'Afrique, est-ce que cela est plus difficile? Et si oui, est-ce que notamment vous accompagnez certains pays pour les aider à parvenir à créer des mécanismes de cet ordre?
Oui, pour les pays dont les institutions sont peut-être moins stables, en tout cas sont en transition, c'est vrai que les défis posés par la transition numérique sont beaucoup plus importants. Et a fortiori pour un problème bien spécifique comme celui des violences basées sur le genre. Internet sans frontières, comme je disais, mène des études pour essayer de quantifier le problème, parce que tant que nous ne quantifions pas le problème, nous n'avons aucune idée de l'étendue de ce problème. Et donc c'est ce que nous avons fait dans une étude que nous avons publiée en 2018 sur le pourcentage d'utilisatrices de réseaux sociaux Facebook et Twitter qui se sont estimées être victimes de violences basées sur le genre. Et en outre, en plus de ces études-là, nous avons également travaillé dans des pays, et notamment au Cameroun, où nous avions déployé un projet pour minimiser la fracture numérique genrée, c'est-à-dire le fait que moins de femmes ont accès à Internet, ont la possibilité d'avoir accès à Internet que d'hommes. Cette fracture numérique est directement liée au problème dont on parle aujourd'hui, celui du sentiment de sécurité sur les plateformes. Évidemment, si des femmes se sentent en sécurité sur un espace, elles n'auront pas du tout envie d'y retourner. Et c'est ce qui en partie explique pourquoi beaucoup plus d'hommes que de femmes vont sur Internet, en tout cas utilisent les outils qui sont disponibles. Étant entendu que dans beaucoup de pays d'Afrique, Internet égale réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont les sites les plus fréquentés dans ces pays-là. Tout cela pour dire que oui, nous proposons notre aide aux États qui veulent comprendre déjà l'étendue du problème, qui veulent développer des solutions créatives qui peuvent les aider dans leur marche vers la connectivité, parce que beaucoup de ces pays africains-là ont des programmes pour la connectivité d'ici 2035. Nous menons des campagnes pour que, à l'intérieur de ces plans de connectivité sur l'ensemble de leur territoire, que les États intègrent les dispositions, les aspects relatifs à l'inclusion numérique genrée et traitent aussi des questions de violence qui sont un obstacle à cette inclusion numérique genrée.
Ne manquez pas de vous rendre sur notre site internet voaafrique.com, notamment dans les rubriques Femmes et Genre et LMF, dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages parmi bien d'autres choses. Merci beaucoup de rester fidèles. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VOA Afrique. Step in.
Julie Owono, vous l'avez précisé, et c'est quelque chose que nous avons constaté également, les femmes participent moins aux discussions sociales, en tout cas, ou lorsqu'il y a une majorité d'hommes, elles ont beaucoup plus de peine à s'exprimer. Et si elles le font, effectivement, elles peuvent se faire rembarrer automatiquement. Alors, est-ce que cela veut dire que s'il y avait plus de femmes qui vraiment participaient aux discussions, à toutes sortes de discussions importantes, politiques, etc., sur les réseaux sociaux, par exemple, en Afrique, est-ce que cela veut dire qu'elle serait moins susceptible d'être harcelée? Et sinon, est-ce qu'il y a une manière de répondre ou de ne pas répondre, je ne sais pas, lorsqu'on est victime de ce type de propos sexistes?
Non, je ne pense pas que si les femmes répondaient plus, elles seraient moins victimes de harcèlement. Tout simplement parce que dans la réalité, ce sont surtout les femmes qui sont vocales en ligne qui sont la cible de campagnes de harcèlement, et comme souvent je le disais, ces campagnes-là sont coordonnées et donc sont dans des proportions qui sont ingérables pour un être humain. Donc c'est pas le fait d'être plus silencieuse, non. Tout simplement, c'est lié au fait que c'est le miroir de notre société, dans ses bienfaits, mais aussi dans ses dysfonctionnements, et le sexisme n'est pas une tare qui est propre à nos comportements numériques. Je pense que c'est à la société d'avancer sur la question, sur l'agenda du sexisme et de l'égalité entre les hommes et les femmes en général. Sur la réaction à avoir face à ce genre d'attaque, c'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je le disais, souvent, ces attaques peuvent être coordonnées. Quand vous avez des milliers, pour certaines femmes qui sont vocales, comme je le disais, quand vous avez des milliers de messages, d'insultes qui inondent soit votre boîte email, soit votre boîte de messagerie sur les réseaux sociaux, soit vos commentaires, soit vos mentions sur une plateforme comme Twitter, c'est impossible de répondre. C'est pour ça que de plus en plus d'organisations invitent les plateformes à prendre leurs responsabilités. Et quand on dit prendre leurs responsabilités, ça veut dire faire des choix de fonctionnalités qui permettent de rendre la plateforme plus sécurisée pour les femmes. Quels sont ces designs ? Quelques-uns ont été implémentés, par exemple sur Twitter, désormais, quand vous publiez un tweet, vous avez la possibilité de choisir qui peut vous répondre. Soit vous admettez que n'importe qui sur la plateforme pourra vous répondre, soit vous limitez les interactions seulement aux personnes que vous suivez ou aux personnes qui vous suivent. Ça fait une énorme différence parce qu'on sait que, notamment lorsqu'il y a coordination, c'est par le biais des mentions et par le biais des commentaires que se fait le harcèlement.
Oui, oui, mais alors là, c'est quand même assez limité parce que du coup, ça ne vous donne pas la possibilité d'ouvrir, c'est l'objectif sur les réseaux sociaux. Quand on publie quelque chose, en tout cas pour les femmes publiques, les femmes connues, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres commentaires, en tout cas à avoir d'autres fans en quelque sorte.
Bien sûr, ça c'était l'un des exemples, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a les exemples sur les questions de modération. On sait que la modération se fait de plus en plus de manière automatisée. C'est-à-dire que c'est une machine, hein, ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, c'est une machine qui va apprendre à détecter des messages qui sont potentiellement haineux, potentiellement sexistes en particulier. Et donc, sur la base de cette détection automatique, la machine va soit supprimer, soit envoyer un humain si nécessaire pour pouvoir acter la suppression de la publication si celle-ci viole les règles, notamment les règles qui interdisent le harcèlement sur la plateforme. Bon, beaucoup de critiques aujourd'hui existent pour dire que cette modération proactive, cette modération automatique par les plateformes ne fonctionne pas très bien parce que les modèles qui sont utilisés par les plateformes pour entraîner l'intelligence artificielle sont des modèles qui eux-mêmes ne reflètent pas la réalité, la diversité des situations dans lesquelles peuvent se trouver des femmes qui sont harcelées. Ce que les plateformes expliquent publiquement, en général, hein, et c'est pas que propre au problème de harcèlement, c'est qu'en général, pour la modération des contenus sur leur espace, elle se fait soit par une revue humaine, donc des modérateurs, dont beaucoup d'entreprises expliquent qu'elles ont mis beaucoup plus de moyens pour embaucher beaucoup plus de modérateurs. C'est le cas d'entreprises comme Facebook, par exemple, enfin Meta maintenant. Soit cette modération se fait par des machines, par l'intelligence artificielle, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est l'état de la modération telle qu'elle existe aujourd'hui. Et sur d'autres plateformes, comme par exemple sur Wikipédia, hein, on ne pense pas à d'autres plateformes, mais c'est aussi une plateforme où des contenus sont produits, eh bien, d'autres plateformes s'appuient sur la modération par la communauté. C'est-à-dire que c'est la communauté, ce sont des membres de la communauté qui vont décider sur la base de consultations avec le reste de la communauté, qui vont appliquer les règles qui sont imposées par la plateforme. Et souvent, ces règles sont construites avec la dite communauté qui, elle-même, ensuite devient modératrice de la plateforme. C'est le cas par exemple de Reddit. Reddit est une plateforme où la modération communautaire est le principe, pareil à Wikipédia. Donc il y a différents modèles de modération, mais en général, ce qui est certain, c'est que cette modération se fait par l'humain, mais aussi et de plus en plus par les machines au regard du nombre, enfin il y a des milliards de contenus qui sont publiés par jour. Donc c'est impossible que seuls les humains puissent s'occuper de cette modération-là.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Alors avec Internet, on arrive en effet à une situation où tout se dit, hein, on a l'impression parfois que tout est permis. L'on sait effectivement que les personnes derrière leur ordinateur ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer de manière insultante. Julie Owono, la question qui vient là forcément, c'est la liberté d'expression. Alors on ne sait plus trop au niveau d'Internet où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête cette liberté d'expression.
Pour ces discussions importantes qui concernent le modèle de démocratie que nous voulons pour les années à venir, je pense que la liberté, elle est la même partout, en ligne, hors ligne. Elle commence avec ma capacité à dire ce que je veux, mais elle s'arrête à la liberté de l'autre. Et la liberté de l'autre, ça peut être son droit à la vie, son droit à la sûreté, à la sécurité et bien d'autres libertés fondamentales et individuelles. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est de savoir comment faire l'équilibre entre ces différentes libertés fondamentales et surtout qui fait cet équilibre-là. Bon, c'est une question très importante qui est posée aujourd'hui. Il y a certains modèles qui sont proposés, des modèles comme ceux du conseil de surveillance de Facebook, dont je fais partie à titre personnel avec 20 autres collègues. Il y a d'autres États qui estiment que cette question doit être réglée par l'État lui-même en coordination avec les plateformes. C'est le cas par exemple en Allemagne où depuis 2018, une loi impose aux plateformes, sur demande des autorités allemandes, de supprimer dans un délai de 24 heures toute publication jugée haineuse ou fausse par les autorités allemandes. Donc impose aux plateformes de supprimer dans un délai de 24 heures sous peine d'amende. Bon, à Internet sans frontières, nous avons beaucoup de critiques sur les deux modèles, mais ce qui est important de garder à l'esprit sur ces questions-là, c'est que c'est dangereux de laisser un seul acteur décider tout seul dans son coin et derrière des portes closes. C'est ce qui se faisait jusqu'à présent. C'était souvent les chefs des entreprises privées, Jack Dorsey pour Twitter, Mark Zuckerberg pour Facebook, Sundar Pichai pour Google Alphabet, mais bon, ils ne gèrent pas les questions de modération tout seuls, enfin, ou le CEO, la CEO en l'occurrence de YouTube. Bref, c'était des individus et des équipes qui prenaient des décisions derrière des portes closes. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces conversations de manière publique. On va t'y aller, là,
Pensez que les nouvelles générations sont plus averties par rapport à ce type de comportement à l'encontre des femmes sur le net et qu'il pourrait y avoir une lueur d'espoir à penser que peut-être les nouvelles générations ne vont pas se comporter comme ça, ou est-ce que c'est vraiment plus profond et que ça se perpétue de génération en génération?
Je pense qu'il y a, un espoir. La conversation sur le sexisme a fait un bond phénoménal, et notamment, je pense que Internet y est pour beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, un hashtag que tout le monde connaît aujourd'hui, MeToo, a enfin permis, et permet encore à l'heure où on parle, permet encore à des millions de femmes dans le monde de dénoncer les violences dont elles ont pu être victimes dans le silence et parfois dans l'ignorance de la justice. C'est une réalité. Donc le fait que l'on puisse avoir ces conversations qui sont difficiles permet d'éduquer et permet aussi d'éduquer les hommes et de comprendre que le combat féministe, puisque c'est de ça dont il s'agit, le combat contre les inégalités hommes-femmes, n'est pas un combat de femmes, c'est un combat de l'humanité. Je crois qu'en ça, les réseaux sociaux et Internet, et c'est ce qui nous rappelle d'ailleurs le paradoxe informationnel créé par cet outil, cette innovation qui est Internet, et en particulier le Web 2.0 autour des réseaux sociaux, nous rappelle ça, que d'un côté, nous avons des bénéfices très positifs, nous avons eu beaucoup de bénéfices ces dernières années, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte des risques, mais pour que le bien continue à surpasser le mauvais, il est absolument impératif aujourd'hui d'avoir une discussion sérieuse sur les garde-fous en matière de droits de l'homme que nous imposerons aux entreprises, mais aussi aux États et aux individus eux-mêmes, pour faire en sorte que cet espace-là reste un espace que nous chérissons tous, de collaboration, d'ouverture, d'égalité et de prospérité pour tous les individus. Pour revenir à la question que vous posez, et c'est l'un des bénéfices, oui, aujourd'hui, on a une conversation qui est complètement différente sur le féminisme et sur l'égalité des droits de l'homme, en partie aussi parce que de nombreuses femmes dans le monde, mais aussi de nombreux hommes, ont permis de populariser, de vulgariser la connaissance sur ce que c'est que le combat féministe et sur l'importance d'avoir des sociétés égalitaires au XXIe siècle et pour le futur.
Julie Owono, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions pour Le Monde au Féminin de VO Afrique. Je rappelle que vous êtes directrice de Internet sans frontières. On vous dit à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Entre parenthèses.
Le 10 novembre 2021, l'Italie a accordé la nationalité à la célèbre magistrate afghane Maria Bachir, première femme procureure générale en Afghanistan, qui a été évacuée en septembre lors du retrait américain. Madame Bachir était devenue en 2009 procureure générale de la province de Herat, où elle a combattu les violences faites aux femmes, le mariage forcé des filles et la corruption. À la fin des années 90, les talibans l'avaient privée de sa charge. Elle avait alors ouvert une école clandestine chez elle pour les filles de son quartier. En 2011, elle a reçu le prix Femme de Courage du département d'État américain et a été classée par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Maria Bachir a dit espérer pouvoir travailler davantage pour les femmes afghanes dont les droits sont à nouveau menacés par le régime taliban. Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.